le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglose, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la Société de Borda, associée au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022. Le sanctuaire de Notre-Dame de Buglose au XXe siècle à travers les épiscopats de Mgr Cormon, Mgr Mathieu et Mgr Bézac. Une intervention de l'abbé Dominique Bopp.
Normalement, à ma place aurait dû parler l'abbé Jean-Pierre Lollon, qui depuis est décédé. Et donc j'ai pris le train en marche, d'où le titre totalement chronologique sur l'annonce des conférences, donc Buglose sous les épiscopats des évêques du XXe siècle. Alors comment aborder la question? C'était un peu difficile de choisir un angle. On aurait pu, comme la dernière page du catalogue de l'exposition 400 ans, 40 objets, évoquer la vie quotidienne à Buglose, le lien entre le monastère, le sanctuaire et le village. Et cela a été très bien fait, avec beaucoup de sensibilité. On pourrait dire aussi que le XXe siècle continue ce qui s'était fait au XIXe, et Madeleine Jogan a très bien montré que en 1895, tout était en place. La structure matérielle du pèlerinage était établie à travers les bâtiments et aussi le corps des missionnaires diocésains. Mais finalement, je me suis rappelé, ou plutôt j'ai relu, cette remarque que l'abbé Robert, supérieur des missionnaires de Buglose, écrivait à Mgr Bézac, à peine nommé dans les Landes. « Monseigneur, vous vous souviendrez que si Dax est le cerveau du diocèse, Buglose en est le cœur. » Alors nous ne séparerons pas l'histoire de Buglose au XXe siècle de l'histoire du diocèse. Et le double mouvement du cœur, la systole et la diastole, a servi de fil conducteur à l'exposition réalisée donc pour le 400e anniversaire. Alors, puisque je parle à l'heure propice de l'hypoglycémie, donc j'essaierai de vous faire participer en appuyant peut-être le trait et en appliquant de manière quelque peu forcée la même image du flux et du reflux de la dynamique chrétienne qui correspond peu ou prou aux quatre épiscopats envisagés dans ce propos. Donc Mgr Touzet, Mgr de Cormon, Mgr Mathieu et Mgr Bézac. Donc tout d'abord, Mgr Touzet, faire face à la séparation. La loi de séparation des églises de l'État, votée en 1905, prévoit l'inventaire des lieux de culte. À Buglose, le 2 mars 1906, l'opération donne lieu à une manifestation populaire impressionnante. À 10h du matin, les 5 brigades de gendarmerie se trouvent en présence de 5 à 600 personnes. Les assaillants, puisque qualifiés comme tels par les missionnaires, sont obligés d'entamer la grande porte intérieure à coups de hache, ménageant un trou d'1m20 sur 1m50, derrière une immense barricade de 8 mètres sur 8, constituée d'un amoncellement de chaises et de bancs, reliés par du fil de fer, empêche le passage. Il faut attendre l'après-midi et l'arrivée de sapeurs pour qu'une percée réussisse. Mais en entrant dans l'église, la mêlée est générale. 5 gendarmes sont contusionnés. Le nouvel évêque, Mgr Touzet, venait d'être ordonné à Rome par le pape Pie X lui-même, peu de jours auparavant. Il va s'efforcer de mettre en œuvre les consignes pontificales exprimé par l'encyclique Vehementer Nos du 11 février 1906, qui condamne la séparation et invite à la défense religieuse. 1907 voit la naissance de l'Union catholique des Landes, une des premières de France, dont le bureau est composé des abbés Lahargou, futur fondateur de Cendrillon, Cazot, directeur des œuvres, et de messieurs Dubos, le père du compositeur Claude Dubos, et Bory. Mgr Touzet veut donner confiance aux catholiques, les amener à se connaître, à se reconnaître, à prendre conscience de leurs forces, à se rendre compte que tout est à créer, là où précisément on croyait qu'il n'y avait plus rien à faire. Cette union organise des congrès cantonaux ou départementaux qui sillonnent les Landes de Pontinx jusqu'à Gabarret, et ce jusqu'en 1914. Pour favoriser la tenue de ces congrès dans les lieux les moins bien équipés, on va jusqu'à acheter une tente de 27 mètres sur 13 dès 1908. Alors ces congrès cantonaux diocésains promeuvent différentes œuvres, notamment des messes d'hommes. Et donc dans cette lignée, Mgr Touzet convoque les hommes à Buglose au pèlerinage du lundi de Pentecôte, 31 mai 1909. Ils sont 4 à 5000 à répondre et se voient encouragés à la défense de la foi et des libertés religieuses. Les hommes sont invités, mais bien sûr, les femmes sont jalouses. Alors il faudra l'année suivante un pèlerinage de femmes, le lundi de Pentecôte. Et là, elles sont le double, 8 à 10 000 pèlerines. Mais là encore, un programme qui se rattache à celui des congrès. La prière et la pénitence sont bien sûr présentes. Mais elles sont là aussi pour entendre deux rapports sur le rôle des femmes dans leur paroisse et dans la société, présenté par la comtesse de Molan, et le rôle des femmes dans leur famille, présenté par Madame Léonce Marast. Et tout ce petit monde se retrouve dans la salle Saint-Vincent de Paul, dont la première mention figure pour la circonstance. Donc il ne suffit pas d'avoir des églises, il faut aussi des salles de réunion. Le cours épiscopal de 5 ans de Mgr Touzet est marqué sous le signe d'une présence au monde. Alors, faut-il parler pour cet épiscopat de systole, rayonnement, ou de diastole, concentration? À votre avis, est-ce qu'on va vers l'extérieur ou est-ce qu'on reste entre soi? Un peu des deux. Et au point de vue géographique, en tout cas, on va aux quatre coins du diocèse. Donc, mouvement, si on peut dire, de systole. Il y a donc des structures nouvelles qui répondent à des problèmes nouveaux, tandis que les forces adverses voudraient renfermer la religion dans les sacristies. Au contraire, il y a un déploiement dans tout le diocèse. Dernier point, la question de l'immobilier. Dans un diocèse malmené, Buglose demeure bien un lieu de stabilité. Alors que l'évêque et les séminaires ont été expulsés d'Aire-sur-l'Adour, les missionnaires n'ont pas été chassés, mais ils occupent les locaux à titre précaire. Ceux-ci deviennent la propriété du département des Landes qui décide de s'en défaire, à l'exception de l'église qui demeure jusqu'à ce jour propriété départementale. En 1913, la résidence des missionnaires est vendue à l'amiable à l'abbé Jean-Baptiste Castets, tandis que les métairies de Caliourc et Laoun, dont une partie forme le parc de Buglose, étaient adjugées aux enchères publiques à l'abbé Boredon de Sobrigue et maître Lucien Cazot de Pouillon. C'est bien à Buglose que Mgr Touzet sera enterré après sa mort suite à un accident au séminaire de Pouillane, enterré le 23 septembre 1911. Deuxième épiscopat, Mgr de Cormont, entre piété et réaction. Piété et réaction. Dès sa première visite à Buglose, le 23 février 1912, Mgr de Cormont est sous le charme des lieux. Comme on est bien ici. C'est un paradis terrestre, j'y reviendrai souvent. Ses premières impressions furent confirmées tout au long de son épiscopat. Son attachement filial à Buglose se traduit par ses démarches en 1914 pour obtenir de Rome un office spécial lié à Notre-Dame de Buglose, patronne principale du diocèse. Pendant la Grande Guerre, il lance une souscription pour ériger au sommet de la tour une réplique de la statue miraculeuse. À l'occasion de son jubilé épiscopal, c'est le décor du chœur de l'église qui bénéficie d'une cure de jouvence en 1925. C'est le décor que nous connaissons actuellement. Et enfin, le carillon est complété jusqu'à atteindre 60 cloches en 1927. Un des événements majeurs de l'épiscopat de Mgr de Cormont est la Grande Guerre. Il y a 10 missionnaires sur 11 qui sont mobilisés. Il y a de grandes difficultés de transport en 1917-1918. Et pourtant, ce sont des foules énormes, venues en pèlerinage organisé ou en famille, parfois à pied, dans un esprit de pénitence, qui demandent la protection de Marie pour leur poilu et pour la victoire de la France. 1916 est l'année de la plus grande ferveur. Ce sont les 50 ans du couronnement. On dénombre pendant l'octave 25 000 personnes, dont 12 000 arrivées en chemin de fer. Et là, on a les billets de train, donc on est sûr du nombre. Des missionnaires mobilisés bénéficient de citations élogieuses, mais l'un d'entre eux, Maurice Labeyrie, meurt pour la patrie le 1er septembre 1917. Un instituteur public de Tartas, Labenas, compose un cantique à Notre-Dame de Buglos destiné aux soldats qu'il dédie à l'aumônier de son régiment. Les prêtres meurent pour la République, les instituteurs écrivent des cantiques, c'est l'union sacrée. L'octave 1919 est celle de la reconnaissance. Le 14 septembre 1919, les soldats démobilisés assiègent les 20 confessionnaux. 3500 communions sont distribuées lors de la messe en plein air et la parole de feu de l'abbé Joseph Borde, ancien combattant lui-même, suscite l'enthousiasme. Pourtant, dans l'entre-deux-guerres, les Landes sont agitées par des mouvements sociaux. En 1920, la révolte des métayers du Bazadour incite Monseigneur de Cormont à faire appel au père Dieuzède, animateur du secrétariat social de Bordeaux, pour organiser des journées sociales à Buglos, 1er, 2 et 3 février 1921, dans le but de créer des syndicats agricoles chrétiens. La propagande est relancée l'année suivante avec les journées rurales de Buglos, 20, 21, 22 février 1922. Le père Dieuzède revient sur tous les efforts accomplis depuis un an et constate le peu de résultats obtenus. La préoccupation sociale disparaît rapidement devant la menace politique. Le cartel des gauches a succédé au Bloc national et après l'union sacrée, c'est la résistance sacrée. Et le 28 septembre 1924, l'abbé Berger, curé de Saint-Émilion, député de la Gironde, harangue 2000 hommes réunis à Buglos. Cette incursion du diocèse et de son évêque dans le domaine syndical a fait long feu. Le recours à des notables souvent âgés pour présider ces syndicats ne suscite pas l'enthousiasme des ruraux et les curés ne se sentent pas concernés par ces groupements, s'occupant d'abord d'achats groupés d'engrais ou de promotion professionnelle, ce n'est pas leur affaire. On peut être étonné de voir Buglos servir de cadre à des journées sociales. C'est certainement le signe d'une concentration du diocèse sur la piété. Alors après, peut-être la systole de Monseigneur Touzet, pourrait-on parler de diastole sous Monseigneur de Cormont. Il va mourir à Dax, mais demande à être enterré à Buglos, le visage tourné vers Notre-Dame, ce qui est fait le 29 avril 1933. Pour son successeur, Monseigneur Clément Mathieu, on peut parler des 30 glorieuses religieuses. De même qu'il y a les 30 glorieuses économiques, les historiens de l'histoire de l'Église au XXe siècle aiment parler des 30 glorieuses religieuses entre 1930 et 1960, qui correspond précisément à l'épiscopat de Monseigneur Mathieu. Nommé le 13 septembre 1931 pendant l'octave, on lui envoie un télégramme de félicitations, il a 49 ans, basque d'Asparin, brillant intellectuel, ancien combattant, vicaire général de Bayonne auprès de l'évêque landais de combat qui était Monseigneur Gieur. Le nouvel évêque, comme Monseigneur Touzet en son temps, se fera le propagandiste ardent de l'action catholique telle qu'elle est voulue par le pape Pie XI. En effet, l'action catholique démarre dans les années 1900 avec des œuvres variées touchant tous les secteurs. Dans son encyclique Ubi Arcano en 1922, Pie XI demande une coordination plus grande et la dépendance plus stricte de la hiérarchie catholique. Le nouvel évêque va payer de sa personne pour susciter partout dans son diocèse ces nouveaux mouvements d'action catholique spécialisés. Il est aidé en cela par l'abbé Joseph Borde, directeur des œuvres et ensuite vicaire général. Toutes les occasions sont favorables pour l'évêque pour une visite dans les paroisses, confirmation, congrès d'anciens combattants, visite pastorale, inauguration, bénédiction et aussi mission paroissiale. Par la volonté de l'évêque, naissent ainsi dans les Landes la croisade eucharistique, 1932, les études agricoles par correspondance en lien avec l'école d'agriculture de Purpan, 1933, la jeunesse agricole catholique, JAC, 1935, la JAC féminine, 1936, la jeunesse ouvrière catholique, 1937, la JOC féminine, 1939, et les cœurs vaillants, âmes vaillantes, en 1940. Vous voyez, la mise à feu, chaque année, il y a quelque chose. Un étage de la fusée démarre. Le second conflit mondial freine cet élan. Seules les manifestations patriotiques, sportives et religieuses sont autorisées par les autorités d'occupation. Le compte rendu des octaves de la période laisse deviner toutes les difficultés de l'heure, notamment au niveau du ravitaillement et des transports. Pourtant, leur besoin religieux est toujours là. En 1942, deux journées de l'octave avaient été supprimées du programme. Pourtant, les fidèles sont là et il faut bien remettre l'animation en route. Pendant l'année 1943, ont lieu 32 pèlerinages, dont deux pour les femmes des prisonniers. L'après-guerre est difficile. Dans leur livre « La France, pays de mission », point d'interrogation, en 1943, les abbés Gaudin et Daniel remettent en cause la pastorale paroissiale et proposent de repenser l'évangélisation sur des bases totalement nouvelles. Pourtant, la même année, 1943, des répliques de la Vierge de Boulogne parcourent la France au milieu de foules énormes. Notre-Dame du Grand Retour, retour des prisonniers pour lequel on prie la Vierge Marie. Cet enthousiasme semble apporter un démenti aux thèses de la déchristianisation. La foi serait simplement endormie et la pastorale consisterait à la réveiller. Monseigneur Mathieu en est convaincu. En 1947, Notre-Dame du Grand Retour reste 3 mois dans les Landes. Le 13 mars, à la journée diocésaine à Buglos, qui rassemble 15 000 personnes avec les statues des Madones landaises, et on voit donc toutes les Vierges des Landes rassemblées autour de la barque de Notre-Dame du Grand Retour. Donc, Monseigneur Mathieu donne un compte rendu enthousiaste de ce que la Vierge a pu faire dans son diocèse. Une mobilisation de tous, hommes compris, des confessions et des communions en nombre, comme pour une gigantesque mission paroissiale. À l'action catholique d'utiliser cet élan sentimental, de l'empêcher de s'éteindre comme un feu de paille. C'est l'essor de la JAC qui répond à cet appel de Monseigneur Mathieu. La JAC, finalement, répond à tout ce dont un rural a besoin. Il y a un développement technique avec la culture du maïs hybride dans les Landes. L'organisation de loisirs avec les coupes de la joie. Une information interne avec le journal L'Hirondelle. Une formation spirituelle pour les plus fervents avec les retraites fermées. En parallèle, les centres ménagers et les maisons familiales rurales offrent une formation à toute une jeunesse mal prise en compte par les institutions publiques. Et donc, c'est toute la vie qui est prise en charge dans un cadre chrétien qui est perçu comme non contraignant. Autre mouvement puissant, c'est l'Action catholique générale féminine, ACGF. Et donc, on parlait au début du siècle de la comtesse de Molan, elle est toujours là. Une Landaise sur 7 y adhère dans les années 50. C'est assez énorme. Et son action rayonne largement, notamment grâce aux heures d'amitié qui rassemblent les jeunes femmes pour partager sur leur quotidien et aux bibliothèques pour tous qui quadrillent le territoire jusqu'à l'hôpital de Mont-de-Marsan, jusque dans les villes balnéaires. Buglos a un rôle central pour la CGF. Chaque année, elle se rassemble en foule lors de l'octave, avec les discours de la présidente, Madame Forsetz, et de Monseigneur Mathieu, qui fait de la CGF son mouvement de prédilection. Madame Forsetz était une maîtresse femme. Son curé de Cabreton disait d'elle « Au prix où il faut payer la vertu, on se demande s'il ne faudrait pas préférer le vice. » Mais Madame Forsetz est efficace. Et on peut noter un diocèse en progrès. L'assistance à la messe bénéficie de ces initiatives. Il y a des comptages entre 1947 et 1964. Un chercheur, Vincent Adoumier, a publié un très intéressant article sur ce sujet, l'essor de la pratique religieuse dans les Landes entre ces deux années. Et il note « Les Landes sont d'ailleurs le seul diocèse du Grand Sud-Ouest à connaître un regain de pratique religieuse aussi spectaculaire. » En 64, 52% de la population des Landes va à la messe, dont 22% de la population masculine. Certaines paroisses, à coup dur, à Cona, un homme sur deux est à la messe. C'est justement dans les doyennés où les mouvements d'action catholique masculins furent les plus présents que l'affluence des hommes à la messe est la plus conséquente. La fréquentation de Buglos est la même que celle des églises landaises qui, à cette époque, donne à certains curés l'impression d'être « pleine à craquer », entre guillemets. Bilan de l'octave 1955, des chiffres, pour les pèlerinages organisés. 600 jeunes filles, 1250 enfants, 1100 hommes, 473 jeunes gens des patronages, 3950 dames de la CGF. Et le commentaire, réel progrès dans le nombre. Et partout dans l'église souffle, je cite, et cela n'est pas propre aux Landes, un vent d'optimisme quant aux perspectives de développement à court et à moyen terme du catholicisme en France. Alors que, donc, nous avions une certaine expansion, du moins dans les intentions, sinon dans les faits avec Mgr Touzet, un certain recroquevillement avec Mgr de Cormont, avec Mgr Mathieu, nous avons... mouvement, de systole, si l'on veut, en tout cas, de flux de la vie chrétienne. Mgr Bézac, lui, arrive dans une période beaucoup plus compliquée, et donc c'est au milieu des tempêtes. Mgr Mathieu se fait vieux, il fait partie de ces générations épiscopales qui ont été évêques jeunes et qui ont vieilli sous le harnais. Mgr Feltin, le cardinal Gerlier, le cardinal Saliège, tout cela font partie de cette époque. Un coadjuteur est nommé le 16 janvier 1961, il s'appelle Robert Bézac. Il a 57 ans, prêtre du diocèse de Périgueux, ancien professeur et canoniste estimé. Il prend les rênes du diocèse à la mort de Mgr Mathieu, le 25 mars 1963. L'abbé Dutreuil, ancien aumônier de la JAC dans les Landes, qualifie les années 60 de « traversée du désert ». Certains dirigeants des mouvements chrétiens ruraux privilégient leur investissement dans des organisations professionnelles sans penser à relire ces engagements à la lumière de la foi. Même la CGF donne des signes visibles d'essoufflement. Mgr Bézac n'a pas d'expérience d'action catholique et sa santé l'empêche d'être aussi présent sur le terrain que ne l'avait été son prédécesseur. Il est victime d'un accident de voiture. Juste auparavant, il avait adressé un vibrant appel à ne pas couper les arbres, les platanes qui, à l'époque, bordaient les routes landaises et formaient comme une voûte protectrice un peu partout. Et voilà que son chauffeur s'encastre dans un platane. Il n'y a pas de justice. Pourtant, Mgr Bézac est conscient de bien des changements. Et je le cite. « Développement démographique de Mont-de-Marsan et Biscarrosse, dépeuplement régulier de certaines régions, inquiétude pour l'avenir des trop petites propriétés agricoles en Chalosse. Installation, et c'est peut-être le plus important, d'un réseau de CES et CEG un peu partout dans les Landes. Évasion généralisée du dimanche, hors du domicile. Afflux chaque année plus massif d'estivants sur les plages. Pour ne pas en rester à ses impressions, il lance avec le chanoine Boulard, qui est le grand apôtre de la sociologie religieuse de l'époque, une grande enquête menée entre 1964 et 1967. Alors Mgr Bézac évoque la grande salle des lazaristes à Notre-Dame-du-Pouille avec des diagrammes, des schémas, des cartes, des graphiques, des en noir, des en couleur. Et au milieu de tout cela, l'abbé Saint-Tuc s'activant et M. Guichemant à la manœuvre. La montagne, car c'était un énorme travail, accouche d'une souris. Ce sera le découpage du diocèse en zones pastorales, partageant les mêmes caractéristiques sociales, dotées chacune d'un vicaire épiscopal, destiné à promouvoir une pastorale d'ensemble en coordonnant les initiatives sur le terrain. Les structures sont en place, mais la crise est patente à l'intérieur de l'Église, comme l'écrit Mgr Bézac en 1973. Le plus grave n'est-il pas ce phénomène relativement nouveau de la division étalée au grand jour à l'intérieur même de l'Église, entre catholiques, ce qui s'appelle eux-mêmes intégristes, et progressistes, et s'anathématisent réciproquement? Cela existe même dans nos landes, dit l'évêque. Les simples fidèles y perdent quelque peu leur latin, d'autant qu'on passe au français, avec des changements menés tambour battant sans trop se soucier de pédagogie. Au conseil presbytéral des 25 et 26 avril 1973, l'abbé Gérard Dubourdieu, dit le tigre, parle d'une perte du sens de Dieu, c'est une hémorragie lente de la foi. Or, la prédication des grandes vérités de foi constituait précisément un axe fort des missions paroissiales. Et vous voyez donc les missionnaires de Buglos rassemblés. Alors, les deux au centre ont le costume des chanoines, ils ont l'hermine au bord de leur camail, et les autres ont le costume des missionnaires, ils ont le camail sans hermine et la croix propre donc aux missionnaires de Buglos. Donc la mission même est en crise. Le secrétariat national des missions est supprimé en 1967. Mgr Bézac résiste tant qu'il peut. Dans toutes ses prises de parole, il dit que le diocèse a encore la chance d'avoir des missionnaires. En 1968, année terrible, le conseil presbytéral du 25 novembre 1968 pose brutalement la question. Le service de la mission sous sa forme traditionnelle répond-il à un besoin réel? La prédication, effectivement, était celle des vérités de foi à une époque où les questions comptent plus que les réponses. Alors, malgré quelques concessions à l'air du temps, les missionnaires sont dispersés en 1972 et avec eux disparaît une institution présente à Buglos depuis 1844. Alors Mgr Bézac réagit devant tous ces problèmes insolubles en encourageant la dévotion mariale. Il est à l'origine de plusieurs manifestations grandioses de piété populaire. Et finalement, il n'est pas tout à fait dans l'erreur puisque c'est l'époque, à partir des années 75, où l'on va remettre en lumière l'importance de la piété populaire, qui est aussi chère au pape actuel. Septembre 1965 voit la consécration de l'Église, qui n'avait pas été consacrée jusque-là. Le centenaire du couronnement, en 1966, rassemble 15 à 20 000 personnes qui entendent proclamer l'Église de Buglos basilique mineure. Jusque-là, on parlait de basilique, mais elle n'en avait pas le titre. La basilique, c'est un titre qui manifeste la proximité avec le Saint-Siège à une époque où se manifeste le complexe anti-romain. Le pavillon pontifical représente cette dignité. Pour l'occasion, la chapelle des miracles a été aménagée avec un grand toit à deux versants à forte pente qui évoque la silhouette d'une bergerie landaise. En 1970, ce sont les 350 ans de la découverte de la statue qui rassemble 10 000 Landais. Présidé par l'archevêque de Lyon qui écrit aussitôt à Mgr Bézac « Quel bon peuple de Dieu il y a chez vous !» Et Mgr Bézac voit dans cette dévotion à Notre-Dame de Buglos, je cite, « la raison profonde du maintien de la foi dans nos landes. Toutes ces manifestations, écrit-il, furent de grandes heures diocésaines. » Et donc, sous Mgr Bézac, la vie diocésaine semble finalement se reconcentrer sur Buglos, diastole, pour reprendre les mouvements cardiaques. Alors en conclusion, eh bien, on peut dire qu'au XXe siècle, le sanctuaire de Buglos a servi de cadre aux diverses manifestations catholiques en particulier lors des périodes les plus difficiles de l'histoire religieuse, sous Mgr de Cormont, Mgr Bézac, ou pendant les deux guerres. Tandis que les périodes les plus conquérantes déploient des rassemblements un peu partout dans le diocèse. La fin du XXe siècle voit disparaître les missionnaires diocésains qui avaient finalement repris exactement la mission des lazaristes du XVIIIe siècle avec le même calendrier, à partir de Pâques jusqu'en octobre les pèlerinages et d'octobre à Pâques les missions prêchées dans les paroisses. Et donc finalement, ces prêtres allaient répandre la dévotion mariale aux fidèles, eux-mêmes heureux de venir à Buglose en pèlerin. Donc il y avait vraiment ce mouvement d'aller et de venue, de rayonnement et d'attrait. Les difficultés du sanctuaire de Buglose tiennent peut-être à savoir comment réactiver ce double mouvement d'attrait et de rayonnement dont les missionnaires ont été les principaux vecteurs. Alors un grand merci à Madeleine Jogan et à Denis Villeneuve pour les illustrations qui ont servi à illustrer quelque peu ce propos. En vous remerciant.
Le sanctuaire de Buglose au XXe siècle à travers les épiscopats de Mgr Cormont, de Mgr Mathieu et de Mgr Bézac, vous venez de suivre une intervention de l'abbé Dominique Bopp. Le 4e centenaire de la fondation du site marial de Notre-Dame de Buglose, 1622-2022, retransmission de la journée d'études de la Société de Borda, associé au diocèse d'Eredax, journée d'études qui s'est déroulée le 30 avril 2022.